France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
Donc là, effectivement, c'est très impressionnant. C'est la façade de l'hôpital qui est juste magnifique. C'est un très très beau bâtiment en sorte d'arc de cercle ouvert à plein sud. Et enfin, tu vois dizaines de fenêtres, la tour au milieu. Et on a un mélange, en fait la pierre c'est un mélange de grès et de brique rouge, il me semble.
Qu'est-ce que ça t'inspire, un lieu comme ça?
Tu te sens vraiment tout petit quand tu visites un lieu comme ça de nuit. Et c'est dingue parce que ce bâtiment a plus de 100 ans. On peut s'imaginer tous ces patients malades de tuberculose qui venaient ici se soigner. Et ce qui est un peu paradoxal face au bâtiment qui est quand même délabré, qui a été saccagé, vandalisé, tu es devant une sorte de jardin presque entretenu. Et ouais, ça témoigne de la grandeur du bâtiment, de ce que c'était à l'époque.
D'où nous vient cette fascination pour les ruines? On entendait là l'extrait d'une création en air sur France Culture le 9 mai 2018 par Gilles Mardi-Rossian. Cette fascination, on la constate à tout bout de champ, pas uniquement à la radio, dans la culture populaire, dans le monde du jeu vidéo, au cinéma, dans la photographie aussi, bien sûr. Comment comprendre ce qu'on pourrait considérer comme un retour de la nature morte, comme le dit notre invité ce matin? Faut-il y voir un lien avec les discours sur l'effondrement des collapsologues qui prennent de plus en plus de place? Ces questions peuvent-elles notamment nous aider à comprendre ce qui s'est joué autour de Notre-Dame en feu au mois d'avril et depuis? Bonjour Diane Scott.
Bonjour.
Vous êtes essayiste, rédactrice en chef de la revue Incise du théâtre de Gennevilliers. Dans votre essai de théorie esthétique, Ruine, invention d'un objet critique aux prairies ordinaires, vous interrogez cet amour des ruines qui dit, et c'est ce que vous expliquez, beaucoup de notre époque. Mais vous faites un travail critique et donc il a fallu s'entendre peut-être d'abord sur ce que vous appelez ruine. Il y a ruine objet et ruine concept.
Alors oui, le point de départ de ruine, invention d'un objet critique, c'est une image. C'est l'énigme d'une image. C'est-à-dire que j'ai été arrêtée, mais comme on l'est tous collectivement depuis une trentaine d'années, par l'image de la ville effondrée, qui se trouve effectivement dans un champ culturel extrêmement large. Hein. C'est-à-dire que c'est un objet, ce bâtiment effondré, délabré, abandonné, l'usine en ruine. C'est quelque chose qui traverse complètement le champ culturel contemporain. On le retrouve dans le jeu vidéo le plus blockbuster, on le retrouve dans des installations d'art contemporain chez des jeunes artistes, on le retrouve chez James Bond, chez Jim Jarmusch, on trouve ça partout. Donc le premier geste en fait de mon livre, c'était de définir, disons, les contours de ce premier territoire de la ruine, qui arrive en fait par strates. Hein. Il y a différentes strates dans cette ruine. Vous avez la ruine telle que la photographie urbaine l'enregistre à partir des années 90. Après la chute du mur, il y a comme ça la découverte de l'Europe de l'Est. Avant, une espèce de grand lifting par le capitalisme. Donc c'est une ruine qui est entre deux effondrements, vous voyez. C'est une ruine qui arrive de 50 ans d'une espèce de patine du bloc de l'Est, et en même temps ce sont des bâtiments qui vont disparaître. Donc la photographie enregistre ça. Et puis après, il y a la ruine du cinéma catastrophe, dont je pose qu'elle est tout à fait connexe à cette ruine-là, et il y a la ruine de la désindustrialisation, dont Détroit est vraiment le nom un peu symbolique, quoi.
Cette image de la ville effondrée, donc elle nous dit quoi? Pourquoi elle vous a fasciné, Diane Scott?
Alors, je pense qu'elle nous fascine tous. Et pour pouvoir répondre à la question du pourquoi cet engouement pour la ruine, pourquoi on est si happé par cette espèce d'amour pour des lieux qui sont finalement assez sales et assez désertés et assez laids a priori.
Et qui peuvent être dangereux aussi, par ailleurs.
Et qui sont absolument dangereux, oui, jusqu'à Pripyat par exemple. Pour pouvoir répondre à cette question du pourquoi, il faut d'abord se poser la question du comment, c'est-à-dire comment on regarde ça. Parce que si on se demande pas comment on regarde une image, on peut pas savoir ce qu'on y voit, c'est-à-dire ce qu'on y voit en fait.
Ça, c'est tout un objet de la critique. Il faut savoir regarder une ruine. C'est ce que vous nous expliquez. Ça nous aide à quoi? À penser l'histoire, à penser une certaine histoire, l'histoire dans la manière dont elle se fait?
Alors oui, ma question, puisque c'est pas un livre d'histoire de l'art, c'est un livre de critique et d'analyse de la ruine. C'est une casuistique au départ de la ruine contemporaine. C'est-à-dire que je pars vraiment d'un pas à pas avec les objets que je récolte. Mais c'est sous-tendu par une question qui est celle du rapport à l'histoire qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que le rapport à l'histoire que nous avons? Comment penser la pléthore des objets que l'on rattache à quelque chose qui est de l'ordre de l'histoire, tout en étant dans une époque qui est très étrange, qui donne au contraire l'impression que nous manquons à penser quelque chose de l'histoire. Et la ruine, je pense qu'elle fait symptôme, si vous voulez, de quelque chose de cet ordre.
Ouais, en prenant les objets, en essayant de les voir peut-être autrement, vous avez une trajectoire là qui est parallèle à celle de Roland Barthes, par exemple?
Alors effectivement, moi je suis partie d'un rapport aux objets qui est très proche de ce que fait, ou en tout cas qui vient de ça, de ce que fait Barthes par exemple avec la France des années 50 dans Mythologie. Voilà, il travaille sur les objets courants de la France consumériste et coloniale des années 50, et il produit une critique de l'idéologie. C'est un des maîtres mots un peu de ruine de ce livre, c'est la question de l'intelligibilité de l'époque à travers quelques images, et notamment la question de savoir si cette ruine, elle parlait, elle dirait quoi. C'est le premier temps en fait du livre, c'est d'essayer de mettre au jour une idéologie de la ruine. Et après, il y a un deuxième temps qui essaye de se déplacer dans cette lecture en fait des objets. Donc, dans le premier temps, il s'agit de se dire voilà, on a des ruines qui nous fascinent, qu'on passe notre temps à regarder. Qu'est-ce que ça raconte de nous? Est-ce que, en regardant un peu attentivement, on pourrait arriver à extraire une espèce de colonne vertébrale de cette ruine qu'on verrait pas a priori, mais qui nous dirait quelque chose de nos arrangements, finalement.
Mais de quoi aussi? De nos rapports sociaux, peut-être?
Absolument.
Il y a matière là à une critique sociale?
À une critique, oui, c'est-à-dire à une critique de l'idéologie, de la ruine, il me semble, pour partie, alors c'est pas la seule interprétation qu'on peut en faire, mais c'est la première que le livre produit, consiste à dire, voilà, cette ruine, elle vient tenir un discours sur l'histoire. Elle vient nous dire quelque chose. L'histoire n'est pas le lieu d'une conflictualité, l'histoire est le lieu d'une solution. Et cette solution, elle a un nom, c'est capitalisme. Et la ruine, vous voyez, le paradoxe de cette ruine-là, à la différence de la ruine antique, c'est qu'en fait, ce sont nos ruines. C'est-à-dire que les gens qui étaient à Pripyat, ils ont notre âge.
Ouais.
Les gens qui travaillaient dans les usines de Détroit, c'était mes grands-parents, quoi.
Et donc, qu'est-ce qui s'exprime là? Dans les photos qu'on prend, par exemple, dans les usines Ford à Détroit, qu'est-ce qui s'exprime? Il y a un refoulé aussi, peut-être, d'une certaine époque ou d'une certaine façon de voir le travail, de voir les rapports sociaux, justement?
Oui. Effectivement, je pense que Détroit, en tant que ruine du fordisme, ruine de
d'une certaine façon du capitalisme aussi.
Oui, absolument, d'un moment du capitalisme, cet amour pour les usines vides et pour une ville qui est volontiers vidée en vérité. C'est-à-dire que le centre-ville de Détroit n'est absolument pas vide, mais il est photographié, il est montré. C'est-à-dire que il y a une disjonction entre la réalité de Détroit aujourd'hui et les images que nous en donnons. Et du coup, ces images-là, elles portent un discours sur l'histoire qui consiste à dire, voilà, ça c'est du passé. Ça c'est fini. Alors, qu'est-ce qui est fini là-dedans? Quelle est cette péremption que la ruine donne à lire? C'est effectivement, il me semble, et c'est connexe avec les discours qui accompagnent ces photos, il s'agit de dire qu'il y a quelque chose de l'industrie, du monde ouvrier, et par métonymie, disons, d'une certaine idéologie qui consiste à poser que ça, c'est fini. On a ça aussi également dans tout un vintage publicitaire, où on recycle en fait un lexique de la contestation sociale, mais à des fins commercial, et ça n'est pas sans avoir un discours finalement sur la gauche elle-même.
Ouais. Ce qui est fascinant, c'est que ça concerne tout le monde. Hein. On a le concept de ruin porn, cette fascination là pour la ruine, et cet amour est transclasse, Diane Scott. C'est ce que vous montrez aussi dans Ruine. Ça concerne alors vraiment tout le monde.
Oui, quand je voulais dire que c'est transclasse, c'était un transclasse culturel. C'est-à-dire que l'intérêt en fait de ces images de la ruine, c'est qu'elles viennent dérouter finalement les réflexes que moi j'avais en tant que moi je viens de la critique dramatique et j'ai fonctionné pendant un certain nombre d'années sur à l'intérieur d'un concept d'idéologie dont j'ai été lassée et j'avais envie de me déplacer à l'intérieur de ça. Et ruine, c'était la ruine contemporaine, c'est vraiment un objet. Ça a été mon objet électif pour pouvoir changer. Enfin, j'ai écrit ce livre pour changer ma manière de voir. Et effectivement, il y a une critique radiographique qu'on peut produire comme ça en essayant d'analyser ce qui se joue d'idéologique dans cet objet. Et en même temps, j'ai essayé de produire un autre rapport à la ruine où la ruine ne vient pas seulement être un mauvais objet, elle vient pas seulement tenir un discours finalement de masque sur les rapports sociaux, mais elle produit autre chose et ça c'est le second temps du livre en fait.
C'est un point de fuite manifeste de l'époque, écrivez-vous. Vous dites que ce motif de la ruine procède de l'avènement d'un nouveau stade de la culture saturée.
Oui, le travail là sur la ruine contemporaine que j'ai essayé de faire, il s'inscrit dans... il s'inscrit au confluent, si vous voulez, de deux choses, la théorie critique et puis la psychanalyse. Il y a un des penseurs, un des héritiers de la théorie critique qui s'appelle Frederick Jameson, qui est un penseur américain, qui a posé un certain nombre de diagnostics sur la culture, sur le capitalisme culturel dans les années 90, et qui produit cette hypothèse que la culture aujourd'hui a atteint un niveau de gonflement.
La culture est partout.
Voilà, la culture est partout. La culture est la condition de tout objet. Et que finalement, ce que nous nous donnons à voir, ça n'est jamais que du déjà vu, du déjà lu. Il n'y a plus de nature. C'est ce qu'il écrit dans l'introduction du postmodernisme. La culture a tout englobé. Et ce qui restait de marge, de résidus, de l'ordre du populaire, de l'ordre du sujet, tout ça a été complètement préempté, complètement mangé par la culture. Il me semble effectivement que la ruine, telle qu'elle se montre aujourd'hui, c'est un objet privilégié pour arriver à élaborer un nouveau concept de culture, ou en tout cas un nouveau moment, pour arriver à lire un nouveau moment dans le capitalisme culturel dans lequel nous vivons, et que ça nous permet effectivement de poser que non seulement la culture c'est la condition de tout objet, mais que la culture aujourd'hui, elle est son propre objet.
Vous montrez ça en consacrant un chapitre à la notion de reboot au cinéma. Ça c'est assez fascinant de voir, et vous l'expliquez très bien, comment Hollywood, mais on pourrait élargir avec aussi peut-être la littérature, ou aller encore peut-être plus loin, comment Hollywood se nourrit d'elle-même finalement depuis quelques années.
Alors le reboot, c'est un objet vraiment assez magnifique, assez intrigant. C'est une manière de raconter des histoires. Alors on connaît la suite. C'est un classique, hein, même un classique des années 80. Vous voyez, vous avez Mad Max, puis après il y a Mad Max le retour, après il y a Mad Max 3, etc. Alien, c'est pareil, Alien le retour, Alien 3, 4, 5, enfin. Et sauf qu'à un moment donné, on en a marre. Et l'autre manière de raconter l'histoire, c'est le remake. Ça, on connaît aussi. Mais les années 2000-2010 inventent une autre manière de raconter des histoires, qui est le reboot, qui est vraiment, qui est un terme qui vient de l'informatique au départ. C'est-à-dire que boot en anglais, ça veut dire démarrer, et reboot, c'est redémarrer.
Voilà, quand on veut redémarrer un ordinateur, on le reboot, et donc ça efface la mémoire vive, hein, c'est bien ça, hein.
Oui, ça permet de nettoyer. C'est voilà. Une opération de redémarrage et de nettoyage des petites scories qui se sont accumulées dans les logiciels, dans la machine.
Et donc on fait pareil avec
Absolument.
Le cinéma.
On fait pareil avec nos fictions. Ouais. Nos fictions privilégiées, voilà, on les reboot, c'est-à-dire qu'on les reprend et on les fait redémarrer à zéro. Alors c'est un drôle de zéro évidemment, puisque c'est pas vraiment un zéro, puisqu'on les connaît déjà ces fictions, mais on fait comme si. Et donc on va avoir Alien, Covenant, Alien, Prometheus, par exemple, qui sont des reboots d'un Alien qui a déjà fait ses preuves, entre guillemets, ses preuves commerciales pendant les années 80-90 sur le mode de la suite, justement. Et donc le reboot, ça va être des drôles d'objets. Je travaille aussi, par exemple, sur Mad Max, Fury Road et sur Blade Runner 2049. Bon, Blade Runner, c'est encore un autre...
Il y a eu un petit pas de côté hein, qui a été fait sur le nouveau Blade Runner. C'est que, en fait, l'histoire a un peu été changée. Il y a un point de vue qui est différent. Mais c'est quand ça procède de la même mécanique.
Oui, c'est-à-dire qu'on reprend une histoire comme à zéro. Et je construis le reboot d'une part comme un symptôme culturel assez saisissant, et d'autre part, je le construis comme une ruine. A priori, c'est pas une ruine, mais ça fait partie de ce second temps, en fait, du travail et de mon travail de critique sur la ruine. J'essaye de poser des objets qui, a priori, ne sont pas des ruines, à côté des ruines réelles de Détroit, de Hashima, de l'usine effondrée, et j'essaye de voir ce que ça produit. Alors là, c'est plus une critique radiographique, c'est une espèce de critique allégorique où on pose des objets côte à côte, c'est un peu comme le travail du rêve, et ça produit d'autres objets à côté, et à partir de là, on peut arriver à pénétrer, disons, dans la pensée d'une époque, d'une manière qui ne considère plus la ruine comme vraiment l'alibi de la domination ou le discours de l'ordre social, mais qui arrive à rendre la ruine intelligible à partir d'un concept, voilà, de ce qu'est la culture aujourd'hui.
Alors vous développez aussi avec les spin-offs, avec les préquels, mais est-ce que c'est ça finalement de voir la ruine, de savoir voir la ruine d'Ian Scott, comme vous le disiez, c'est de faire comme si on avait oublié, en parlant du reboot au cinéma?
Alors le comme si, c'est une tournure qui a été très travaillée par la psychanalyse et par la question du fétiche. C'est-à-dire que ça se veut le discours type du fétichiste qui va dire c'est un certain rapport, si vous voulez, de un certain rapport à la croyance. On fait comme si quelque chose avait lieu ou quelque chose n'avait pas lieu, quelque chose existait. Alors j'utilise effectivement un certain nombre d'outils de la psychanalyse pour me déplacer à l'intérieur de l'idéologie et pour essayer d'analyser en fait la ruine contemporaine.
Notre-Dame, depuis l'incendie du 15 avril, c'est peut-être pas une ruine objet entièrement, c'est une ruine concept. On peut utiliser ça pour voir Notre-Dame aujourd'hui.
Alors ça fait partie des gestes du livre que de composer un corpus de la ruine contemporaine. Et je pose effectivement que on a affaire aujourd'hui à une séquence de la ruine qui est tout à fait spécifique et qui n'a rien à voir, en tout cas qui décroche vraiment nettement de la tradition très longue de l'image de la ruine, et notamment de ce que la modernité a fait à partir de la ruine antique. Alors du coup, effectivement, je prends comme ça des images plutôt de la catastrophe, qui a priori n'ont pas à voir dans la tradition classique. La catastrophe, c'est pas forcément quelque chose qui a affaire à la ruine, mais là je pose que ça appartient à la même nébuleuse.
Vous juxtaposez aussi d'autres objets, bien d'autres objets dans votre corpus, parce que vous parlez du veston remis à la mode, du veston vintage qui aujourd'hui est repris par des contemporains. Vous parlez aussi de ces anciens ateliers qui sont transformés en cafés. Ça aussi, ça c'était important pour vous de montrer que la ruine peut aussi finalement se porter, peut se vivre.
Oui, c'est un des plaisirs du critique, vous voyez, c'est de fabriquer des tables d'objets. Alors on prend une table et puis effectivement ruine, invention d'un objet critique, c'est une table d'objets complètement hétéroclite. Alors il y a de la ruine réelle, il y a l'usine délabrée, il y a les photos des explorateurs urbains et à côté je pose la vaisselle gentrifiée des mineurs du Royaume-Uni qui aujourd'hui se vend voilà pour la classe moyenne embourgeoisée dans les centres-villes. La publicité avec les le lexique un peu gaucho, et d'autres objets qu'il me semble effectivement intéressant de poser comme des ruines. Si vous voulez qu'en fait, c'est lié aussi, si j'essaye de dire un mot de ça, ça a un lien avec un certain idéal d'écriture. C'est-à-dire que c'est pas du tout un livre qui essaye d'être exhaustif sur ce qu'il en serait de la ruine contemporaine, parce que d'abord c'est une nébuleuse qui est proliférante, si vous voulez, la ruine est partout aujourd'hui. Et donc, il s'agit pas du tout de produire comme ça une espèce de cartographie exhaustive de la ruine contemporaine, mais au contraire, il s'agit, pour produire une intelligibilité de cette ruine, il faut couper. Il faut trancher dans le tas, dans le vif. Et donc, ma manière à moi de trancher, c'était d'une part d'importer des objets qui, a priori, n'avaient rien à voir avec la ruine, mais que je construis comme des ruines, et qui viennent comme ça produire des éclairages latéraux. Et en même temps, je tiens à l'idée que, enfin c'est un idéal, hein, c'est pas ce que j'ai fait nécessairement, mais je tiens à l'idée que un livre, c'est pas seulement quelque chose qui a une propreté épistémique, mais c'est quelque chose qui s'avance au-dessus d'un vide, qui prend un risque en fait dans l'écriture.
Vous nous dites que la ruine est partout, est-ce qu'elle a pas toujours été partout, c'est aussi, et vous l'avez évoqué tout à l'heure aussi, un motif biblique par exemple?
Ah oui, absolument. Oui. Ah, mais la ruine...
C'est-à-dire qu'il y a un regard qui change à travers les âges, mais voilà, il y a un accompagnement depuis la nuit des temps. Il y a aussi ce rapport à la catastrophe, et on peut peut-être parler de ces théories de l'effondrement qui sont aujourd'hui très à la mode, des collapsologues, et qui peut-être s'accommodent de cette image de ruine aussi.
Alors c'est toute l'ambiguïté en fait de ces images, c'est que vous avez parlé tout à l'heure du risque de la ruine. Il y a effectivement des gens qui prennent des risques incroyables pour aller prendre des photos à Pripyat, dans des lieux qui s'effondrent. Et on regarde, et vous avez parlé du succès de la série de Tchernobyl, on peut s'étonner effectivement de l'esthétisation d'images qui sont en vérité des images d'une violence sociale inouïe. Pripyat, c'est le mensonge d'État, c'est la catastrophe technique. Détroit, ce sont des émeutes raciales, c'est la violence d'un capitalisme absolument débridé. Ouais,
tout ça devrait être encore plus sale, finalement, que ça ne l'est physiquement. Hein. Je parle de Tchernobyl, c'est quelque chose qui est effectivement radioactif. C'est un endroit radioactif, c'est un endroit dans lequel il ne faut pas aller, et pourtant qui nous attire.
Mais ça devrait effectivement nous glacer d'effroi, ces images-là. Et au contraire, nous les regardons avec passion. Alors, voyez, un certain militantisme s'emploie à nous dire que nous scions la branche sur laquelle nous sommes assis. Moi, je pense que ces ruines, ce qu'elles nous racontent, c'est que nous regardons la scie avec passion. Et d'où l'énigme de ces images. Qu'est-ce qui se joue pour nous là-dedans ? Et je pense qu'effectivement, dans l'esthétisation, il y a un effet de masque. On esthétise quelque chose qui devrait politiquement nous avoir un effet d'électrochoc.
C'est une partie de notre avenir aussi qu'on peut imaginer regarder, Diane Scott ?
Mais le propre de cette ruine, justement, c'est qu'elle déboîte les temporalités. Est-ce que c'est notre avenir ? Ça se donne comme notre passé. En vérité, la catastrophe, elle est au présent. La guerre, c'est maintenant.
La ruine ne vieillit pas.
Alors, là aussi, vous voyez, cette ruine, c'est la ruine antique, je crois, qui ne vieillit pas. La ruine antique a vraiment un rapport à une forme d'éternité. C'est, vous voyez, la pierre blanche des théâtres grecs. C'est quelque chose qui est au-devant de nous. La ruine contemporaine, c'est une ruine qui non seulement s'est érodée sur quelques décennies, parfois un peu moins, mais qui est promise, en vérité, c'est elle, la ruine, c'est elle l'objet de son propre effondrement. Il y a tout le cinéma, il y a toute une partie du cinéma asiatique, chinois notamment, auquel je m'attache, avec Wang Bing, Tsai Min-liang, enfin plutôt Jia Zhangke par exemple, qui travaille à enregistrer la disparition d'une ruine. Donc, vous voyez, ce sont des centres-villes médiévaux qui sont rasés. C'est à peu près ce qui s'est passé dans l'Europe de l'Est dans les années 90. Là, ça se passe en Chine. Ce lifting brutal urbain.
Qui reprend aussi quelque chose de la révolution culturelle par ailleurs.
Ah, peut-être, oui, on peut le raccorder à d'autres traditions idéologiques ou à d'autres événements. Moi, j'aurais plutôt tendance à penser que c'est plutôt une annihilation qui a trait au devenir des centres-villes tels que le capitalisme les remanie. Et cette ruine-là, vous voyez, elle est prise dans d'autres logiques temporelles. C'est pas du tout une ruine éternelle, au contraire, c'est une ruine dont on enregistre la perte.
Merci beaucoup, Diane Scott.